conférence prévue du noviciat par le père Philippe à Saint-Jadard le 17 mai 1989.
Alors, je ne sais pas s'il faut parler de la sortie du noviciat ou de l'entrée dans le noviciat, tu vois. Parce que il y a un flux et reflux. C'est vrai, 15 qui sortent du noviciat, ça fait un trou. C'est vrai. Mais il se remplit continuellement, le noviciat. C'est vraiment un passage constant. Alors, ceux qui sont sortis du noviciat ne sont pas obligés d'assister au cours. Hein ? Je leur dis, parce que ça, c'est pour le novice. Mais là, il y a des secrets qu'on dit aux novices, mais qu'on ne dit pas aux autres. Mais alors, comme on est très magnanime, on permet à tout le monde d'y assister. Vous voyez ? Vous pouvez venir dans la mesure où c'est bon pour vous. Vous voyez, Arimont, ils m'ont demandé. Je ne le faisais plus. J'attendais qu'ils me le demandent. Oui, parce que vous savez bien que si on l'impose de l'extérieur, il n'écoute pas. Tandis que s'il le demande, il s'écoute. Je connais suffisamment les intellectuels. Jésus a dit ça. Notre Seigneur ne dit rien, Nicodème. Rien du tout. Alors, Arimont, ils ont demandé de faire un cours sur la vie religieuse. Donc, c'est le noviciat. Il y a le troisième an. Chez les pères jésuites, chez nous, il y a le deuxième an. C'est pas le troisième, c'est le deuxième, Arimont. Bientôt, il y aura le troisième. Alors, ça ne se fera pas ici, ça se fera autre part. Alors, on va continuer de réfléchir sur ce qu'on avait commencé, parce que je crois que c'est quand même toujours cela que nous devons essayer d'entrer de plus en plus dans la perspective de Saint Jean, la perspective joannique. Vous voyez bien, quand je dis ça, c'est pas exclusif à Saint Jean, c'est l'Église. Mais je crois que l'Église, surtout l'Église de France, puis le petit signe du bon Dieu stand ici, de faire l'ordination, non c'est officiel, on peut le dire, l'ordination par le cardinal de Lyon à Lyon, là, à Saint-Jean. C'est bien, il faut remercier le Seigneur de ça, parce que c'est quand même bien de la part du cardinal, sachant très bien qu'il va recevoir des éclaboussures. Alors on va prendre un grand bouclier, enfin, pour qu'ils ne reçoivent pas cela. Mais remerciez le Seigneur, parce que c'est quand même beau. Étant donné que Ars ne pouvait pas, Vesle ne pouvait pas, on était donc obligé de revenir ici et de dire au cardinal on vous reçoit, mais au milieu du tintamarre. Alors, a ouvert ses portes. Bien. Généreusement. La sagesse de la croix. Toute la vie chrétienne, c'est la sagesse de la croix. Dans la vie chrétienne, la vie religieuse, d'une manière éminente. C'est la voie express. Et c'est vrai, c'est la voie express. Ça n'enlève rien du tout à la sainteté du mariage. Vous voyez, la lecture de saint Augustin à midi nous le rappelle. Et c'est beau de l'entendre de la part de saint Augustin. C'est la voie express. Le Seigneur peut faire que dans le mariage, ce soit la voie express. Le Seigneur rattrape, quelquefois, de façon très étonnante. Vous verrez ça dans la vie apostolique. J'en ai vu comme ça dans la vie apostolique. Des rattrapages du Seigneur étonnants. y a le veuvage. Ça, ça fait la manière dont le Seigneur rattrape des gens très donnés au Seigneur, qui s'étaient mariés pour des raisons, elles-mêmes ne le savaient pas très bien pourquoi. Et alors, surtout les veuves de guerre, parce que les veuves de guerre, ça fait des morts en quantité de jeunes. Et aujourd'hui, les accidents de voiture, ils continuent. On en apprend tous les jours. La sagesse de la croix. J'ai essayé avec vous de comprendre ce que ça veut dire. Le Père a voulu que nous soyons sauvés par la croix. Le Père a voulu que ce soit par la croix que se manifeste de la manière la plus profonde, la plus explicite, le mystère Dieu est amour, le mystère de la paternité. Pour nous, la paternité est liée à la croix. Ça, c'est à travers le mystère de la croix que la paternité du Père sur le Fils bien-aimé, sur Jésus, par lui, sur Marie, par elle, sur nous, sur Saint Jean. C'est le grand secret que Jean a reçu à la croix. Et qu'il l'a reçu gratuitement. Il l'a reçu d'abord par sa fidélité. Jean a été fidèle. Et surtout, il a été le seul. Il a essayé de porter Pierre le plus loin possible. Puis à un certain moment, Pierre a craqué. Sorte qu'il était seul. Il faut souvent penser à la solitude de Jean. Oui, c'est impossible autrement qu'il n'y ait pas eu entre les apôtres des liens très très forts d'amitié avec Jésus. Entre Pierre et Jean, il y avait sûrement un très grand lien d'amour et d'amitié. Peut-être les deux extrêmes, voyez, ce qui arrive dans les noviciats. Les vraies amitiés divines, c'est comme ça. C'est pas du tout celle qu'on avait avant. Tout à fait différent. C'est des amitiés qui naissent dans la charité fraternelle. Et ordinairement, c'est, je dis pas toujours Pierre et Jean, mais c'est des choses semblables à ça. De vraies amitiés divines. C'est dans la vie religieuse qu'il y a les plus grandes amitiés divines. Et quand je dis amitié, je dis l'agapé assumant une amitié humaine, et la transformant, et lui donnant toute sa signification. Il ne faut pas la chercher. Parce que si on la cherche, ça ne va pas. On va dire, je n'ai pas d'amitié, moi. Mais très bien, Dieu veut vous enfoncer dans la solitude. Très bien. Et puis, ça vous tombera dessus un beau jour. Dieu mettra comme ça des liens fraternels, très beaux, très grands. On ne les cherche pas, ça vous tombe dessus. Et c'est pas nécessairement avec ceux qu'on aurait choisi humainement, même très souvent pas. Je crois qu'entre Pierre et Jean, il y a une très grande amitié. Vous voyez, la question de Pierre est significative, et lui. Pierre est casé, si j'ose dire, d'une façon tout à fait divine. Fait paître mes brebis. Et à ce moment-là, il sort un peu des 12. Et lui, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est assez significatif. Au moment où Jésus le prend très à lui, même tu, plus que les autres, par 3 fois. Il demande, et Jean, et lui. Je crois que ça s'arrive. gens qu'il a entraînés. Le jeudi soir. Après la scène. C'est à cause de gens qu'il a été fidèle. Et puis, j'en ai peut-être pas été assez attentif au ricanement de la servante. Pauvre Pierre, il était sensible encore au ricanement de la servante. Et Jean-là n'a pas pu être médiateur. Parce que dans l'amitié, on est comme ça toujours, une amitié divine. On est médiateur l'un par rapport à l'autre. Dans un flux et reflux divin qui vient de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. C'est dit dans notre consécration. On demande que l'Esprit Saint puisse réaliser la plénitude d'amour entre nous. Et je vous ai déjà dit, le signe qu'une amitié est divine, c'est qu'elle n'est pas exclusive. Le signe qu'une amitié reste humaine, c'est qu'elle est exclusive. Dans la vie commune, c'est très net. Et c'est pour ça que les amitiés qui naissent dans la charité ne sont pas exclusives et intensifient le mystère de la charité fraternelle et permettent, par rapport aux autres, d'être très liés. Ça, c'est très très important. Jean a vécu cette grande révélation d'amour à la croix. Il a compris que Jésus était pour nous sagesse. Sagesse d'amour. Sagesse de vérité. Il rend témoignage à la vérité que Dieu est amour. Et cette sagesse se sert de la mort, de la souffrance, de l'agonie, de la solitude, du rejet, à tout point de vue, pour qu'il n'y ait plus que l'amour. C'est extraordinaire de voir. Vous voyez comme tous les conditionnements sont dépassés par l'amour. Ça, ce serait très beau à voir. Tous nos conditionnements. Le conditionnement le plus fort, c'est que nous sommes voués à la mort. Pour les psychologues, être voué à la mort fait comprendre toutes les angoisses. Or, le conditionnement le plus terrible, c'est l'angoisse. Ça, c'est sûr. Le conditionnement qui nous inhibe le plus. Quand on est angoissé, on risque de faire des tas de bêtises. Vous savez, comme un animal traqué. On est traqué par l'angoisse. Donc, le conditionnement de la mort, le conditionnement de la souffrance, le conditionnement de la trahison, le conditionnement de la tristesse, le conditionnement d'être rejeté de sa patrie. D'être rejeté des autorités religieuses. Tous les conditionnements sont présents dans une note maximum. Est dépassé par l'amour. C'est une mort d'amour. Ça, c'est sûr. Il offre sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de manifester, que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et donc, cette sagesse d'amour, cette sagesse de la croix, c'est l'amour divin victorieux de tout conditionnement. Sans les supprimer. Oui. Parce qu'il y a des sagesses qui consistent à supprimer tous les conditionnements. Un peu la sagesse stoïcienne, vous voyez. Il y a des sagesses qui consistent à les accueillir tous et être enseveli dedans. L'épicurisme. Carpe diem. Carpe diem, c'est ça. Le dilettantisme substantiel de la vie. On prend ce qui nous est agréable. Et on reste fixé là. Il y a deux extrêmes, hein, l'épicurisme et le stoïcisme. Et le dépassement, c'est l'amour. Victorieux de tous les conditionnements. Il faut souvent y revenir pour nous, pour que ça devienne, j'allais dire, le réflexe comme naturel en nous. Vous voyez, quand saint Paul dit folie et scandale, à sa manière, il traduit bien deux réactions stoïciennes et épicuriennes en face de la croix. Folie et scandale. La réaction de l'intelligence, la réaction de la volonté, dans son conditionnement le plus profond, qui ne veut pas accepter la croix. Et le chrétien, lui, à la suite de Jésus, à la suite de Marie, reconnaît la croix et l'aime. Il aime non pas pour elle-même, à cause de Jésus. C'est Jésus crucifié qu'on aime. C'est Jésus immolé qu'on aime. Donc, sagesse de la croix. Avec la vie religieuse, nous voulons que cette sagesse de la croix s'empare de toute notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on veut vivre dans la souffrance. On veut vivre dans l'amour et dans la victoire de l'amour. C'est ça qu'on choisit. C'est le cœur du Christ qu'on choisit. Comme fournaise brûlante d'amour. C'est pas autre chose. Mais nous savons très bien qu'en choisissant la croix, qu'en choisissant l'amour, que cet amour se donne à nous de la manière la plus adéquate dans la souffrance, dans la mort, dans la croix, nous serons nous-mêmes crucifiés d'une manière cachée comme Marie, d'une manière violente comme Jésus. Nous ne cherchons pas, hein. Nous n'optons pas d'entrer dans la communauté Saint-Jean parce que là, il y aura sûrement un sacrifice sanglant. Non. On opte d'entrer dans la communauté de Saint-Jean parce qu'on a compris que c'était là où l'amour divin voulait nous prendre et nous attirer. On entre par amour. Et on sait que cet amour ne peut pas se séparer de la croix. Et donc de tous ces conditionnements que Jésus a porté dans son mystère de croix. Et on les accepte tous, en sachant que l'amour divin est victorieux de tout cela. Et on veut, par notre vie religieuse, ne pas perdre de temps. C'est pour ça que je dis voie express. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, on sait très bien ce que c'est que les voies express. On ne veut pas perdre de temps. Nous avons un sens très aigu du temps. C'est propre à notre temps. Très aigu. Je crois à cause de la rapidité de tout. Et c'est une des souffrances, vous voyez, du noviciat. Je ne dis pas que le noviciat, c'est une perte de temps radicale de tout. Mais un petit peu, pour des gens qui avaient des mœurs de travail, on vient vous couper le temps. De façon remarquable. Et Ça a toujours été comme ça. Depuis que le noviciat existe, pas le nôtre, mais tous les noviciats du monde. Ceci pour enlever un attachement trop grand à ce qu'on fait. C'est cette parole terrible dans l'évangile de Saint Jean, cette parole de Jésus. Quand Jésus reproche aux pharisiens de ne pas avoir accepté la lumière, il montre qu'ils se sont attachés trop fort à leur œuvre. Ils ont aimé ce qu'ils faisaient. Et on aime toujours, de façon très étonnante, ce qu'on fait. Ça vient de nous. C'est comme une mère qui trouve toujours que son enfant est le plus beau de tous les enfants. Très beau pour une mère, c'est un peu agaçant quand ça dure trop longtemps. Pour les autres, on dira. On aime toujours ce qu'on fait. Ce qu'on fait est toujours la meilleure et la plus belle de toutes les choses. C'est très bien. Mais il faut l'offrir pour que si cette œuvre n'est pas bonne, on aime mieux la lumière que l'œuvre qu'on fait. Et tant que c'est notre œuvre, on aime plus notre œuvre que la lumière. Et c'est ça qui fait qu'on opte pour les ténèbres plutôt que la lumière. En réalité, on n'opte pas pour les ténèbres. On opte pour notre œuvre, pour ce que nous faisons. Et ceci est la tentation permanente de toute vie humaine. Tentation permanente. On aime mieux ce qu'on fait que la lumière, qu'on ne fait pas, qui nous est donnée gratuitement. Mais il y a toujours en nous un vieux bonze, ce qui paraît que c'est la tentation la plus grande pour les bonzes. Me disait une missionnaire. Ils n'arrivent pas à être chrétiens, parce qu'être chrétien, c'est accepter la gratuité. Eux veulent que tout vienne d'eux. Ils veulent la perfection, mais une perfection qui vient d'eux. Une perfection qui soit à leur taille. C'est très significatif, ça. Il y a de la grandeur, c'est du stoïcisme, si vous voulez, au carré. On n'accepte que ce qui vient de nous. On n'accepte pas la gratuité. Parce que la gratuité, c'est nous mettre dans une condition de mendiant. On n'accepte pas d'être dans une condition de mendiant. On n'accepte pas de recevoir gratuitement quelque chose d'un autre. On veut que tout vienne de nous. D'un orgueil très subtil, très caché. C'est quand même de l'orgueil. Alors, la brèche, vous voyez, profonde, la gratuité de l'amour. Et c'est vrai, la sagesse de la croix, c'est une gratuité pure. Notre vocation est une gratuité pure. La vie religieuse sera le moyen le plus adéquat pour vivre de cette sagesse de la croix. Et je crois qu'on peut le dire assez facilement. Marie vit du mystère de la compassion. Et c'est le sommet de toute sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a vécu le mystère de la compassion. Elle l'a vécu dans la lumière du mystère de la résurrection, dans la lumière du mystère de l'ascension. Elle l'a vécu dans la lumière du mystère de l'Esprit-Saint. Ce feu divin qui lui a été donné. Qui a bien montré comment tout était brûlé par l'amour. Et elle a vécu jusqu'au bout le mystère de la compassion. Et c'est pour ça que vivre nos vœux la sagesse de la croix, c'est recevoir à la suite de Jean, Marie, dans son mystère de la compassion. C'est Marie, vivant le mystère de la compassion, qui est donnée à Jean. Pour que Jean vive ce même mystère, puisque Marie est donnée comme mère. Et le grand secret de la vie de la Très Sainte Vierge, c'est le mystère de la compassion. L'alliance de l'époux et de l'épouse. Faire œuvre commune avec Jésus. Faire œuvre gratuite avec Jésus. C'est de la gratuité pure pour Jésus. C'est de la gratuité pure pour Marie. Et Jean reçoit Marie vivant le mystère de la compassion. Il l'a pris chez lui. Nous devons, nous aussi, recevoir Marie de la même manière, à la suite de Jean, vivant le mystère de la compassion, à travers le mystère de la résurrection, à travers le mystère de l'ascension, à travers le mystère de l'Esprit-Saint. Je crois que c'est cela, vivre d'une manière joannique, nos voeux. Pas 36 manières. Et d'une certaine manière, c'est vraiment la manière la plus divine, la manière ultime. Il n'y a pas d'autre manière pour nous de vivre. Cherchez bien. Mais alors vous la vivrez, vous vivrez vos voeux d'une manière stoïcienne. Vous voudrez vous réaliser. Faire votre œuvre à force de poignets, en devenant des bonzes. Ça existe. Il y a des religieux qui sont des bonzes. Bien, vous la vivrez, je dirais, d'une manière épicurienne. Ça a existé dans l'histoire de la pensée. Un philosophe qui a voulu, au XVIIe siècle, montrer le lien entre l'épicurisme et le christianisme. Il y en a plus qui ont montré le lien entre le stoïcisme et le christianisme. C'est plus facile à montrer, ça. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, stoïcisme, ça arrange très bien, ça. Pour l'épicurisme, c'est plus difficile. L'épicurisme, je ne vois pas très bien comment. Mais on peut quand même. Je vous donne la joie. Et je veux la plénitude de joie. Jésus le dit à la fin de sa vie. Vous voyez, c'est tout à fait ce qu'il y a d'ultime dans la vie chrétienne. La joie. Alors comme on confond joie et jouissance, et que toute jouissance doit être pour un épicurien complètement spiritualisé et transformé du dedans, ça devient de la joie. Et le christianisme, c'est pour avoir la plus grande joie possible, la plénitude. Et nous voyons très bien les caricatures. Il faut au contraire vivre le mystère de la croix comme Marie l'a vécu. Alors là, il y a une garantie. On est sûr de ne pas se tromper. Marie est au-delà du stoïcisme, au-delà de l'épicurisme. Ça, c'est sûr. La croix, pour elle, est sagesse. Alors, retenez cela, nous verrons ça après. Pas possibilité de vivre d'une manière joannique nos voeux sans vivre du mystère de la compassion. Vierge qui nous est donnée comme mère, c'est Marie vivant le mystère de la compassion. Et ce mystère de la compassion nous lie au mystère de la rédemption et au mystère de l'incarnation. Alors là, nous saisissons, vous voyez, comment nos voeux, c'est nous mettre le plus proche possible du mystère de la rédemption et du mystère de l'incarnation. Et par là, vous entrez dans une théologie mystique du mystère de nos voeux. Le chrétien, c'est celui qui veut être le plus proche possible de Jésus crucifié. Le chrétien, c'est celui qui sait qu'il est né à la croix. Et que cette naissance à la croix est une naissance de l'esprit et de l'eau. Naissance qui se fait par l'Esprit Saint et par Marie. Il faut naître de ce mystère et naître conjoint à cette source, c'est-à-dire au mystère de la rédemption. Et on sait que la rédemption, c'est le fruit le plus excellent de l'incarnation. Et donc c'est par l'union au mystère de la rédemption que je suis le plus proche du mystère de l'incarnation. Ça, je crois que c'est... important pour nous de comprendre que le chrétien, par ses voeux, est le plus proche des deux grands mystères de Jésus, rédemption, incarnation. Ça, il faut creuser ça, théologiquement. Voyez, l'humanité sainte de Jésus est dans un état unique par le mystère de l'incarnation. Puisque cette humanité subsiste dans le Verbe. Par nos voeux, nous sommes dans un état le plus proche possible pour la créature par rapport à Dieu. Et donc, c'est vivre de la manière la plus proche du mystère de l'incarnation. Ce que Jésus est ontologiquement, nous le sommes vitalitaire. Hein ? Comprenez bien ça. Ce que Jésus est au niveau de l'être. Je mets l'être avec un grand T, puisque c'est par rapport au Verbe. Il subsiste dans le Verbe. Et subsistant dans le Verbe, sa nature humaine est... Sa nature humaine est dans un état tout à fait unique, puisque elle existe de l'existence même du Verbe. C'est fou. C'est ça, théologiquement. Et l'exister de la nature humaine dans le mystère de l'incarnation, c'est de subsister dans le Verbe et donc d'exister de l'existence même du Verbe. Ce que Jésus est, puisque le mystère du Christ, ce que Jésus est au niveau de l'être, l'Église veut le vivre autant qu'elle le peut, au niveau de la vie. Au niveau de la vie divine. Vivre le mystère de l'incarnation. Au niveau de la vie, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire que toute notre nature humaine soit totalement consacrée à Jésus. notre nature humaine ne peut pas subsister dans le Verbe, puisqu'on est une créature. Mais notre nature humaine peut vivre dans un choix d'amour. Tout ce qui est réalisé ontologiquement dans le Christ. Et c'est bien nous mettre dans l'orientation la plus immédiate pour la vision béatifique. Dans la vision béatifique, et ça saint Thomas le dit, dans la vision béatifique, notre intelligence va vivre ce que la nature humaine du Christ vit, ce que la nature humaine du Christ est. Dans la vision béatifique, notre intelligence transformée par le Lumen Gloriae, la lumière de gloire qui nous est donnée pour que nous soyons capables de voir Dieu tel qu'il est. La lumière de gloire nous est donnée gratuitement. Au sens strict, nous ne la méritons pas, mais nous la méritons quand même, puisque ça nous est donné pour nous récompenser de tout ce que nous avons vécu sur la terre. La lumière de gloire est donnée en proportion du degré de la charité. Elle n'est pas donnée en proportion de notre sagesse métaphysique. Heureusement. Il n'y a pas de connaturalité entre la sagesse métaphysique et la lumière de gloire. Pas de connaturalité. Tandis qu'entre la charité et la lumière de gloire, il y a une connaturalité. La lumière de gloire, d'une certaine manière, c'est le fruit de la plénitude de charité. Quand vous serez arrivé à la plénitude de charité telle que Dieu le veut, à ce moment-là, votre âme quittera votre corps. Votre corps tombera comme un vieux vêtement. C'est le vieux vêtement du vieil homme qui tombe avec la cravate au moment de la prise d'habit. La cravate, c'est le surcroît. C'est pour ça que c'est toujours plus pénible à enlever. C'est le surcroît. Ça fait plus longtemps à enlever. L'autre, on laisse tomber. L'autre, c'est le coup. Alors, quand la charité aura atteint la plénitude, fleurira dans la charité la lumière de gloire. Je ne peux pas dire que la lumière de gloire est comme la propriété de la charité. C'est une grâce de persévérance finale et donnée gratuitement. C'est la lumière de gloire. C'est très beau, ça. La gratuité jusqu'au bout. Vous voyez ? Alors, la lumière de gloire, notre intelligence s'ouvre à Dieu lui-même, à Dieu en lui-même, l'essence de Dieu, comme disent les théologiens. Ils ne savent pas très bien ce que c'est hein, quand ils disent l'essence de Dieu, moi non plus. L'essence de Dieu. Dieu se donnera à notre intelligence d'une manière telle qu'il n'y aura pas d'intermédiaire. Plus de concepts, plus d'idées. Sur la terre, on offre ses projets. Dans le ciel, la lumière de gloire, on offre ses idées. La place des idées, c'est l'essence même de Dieu. La pauvre petite créature verra directement Dieu. Et la lumière de gloire de l'intérieur fera que notre intelligence deviendra capable. l'essence même de Dieu lui-même. C'est Dieu qui déterminera ma vision béatifique. C'est Dieu qui sera vu par et en lui-même, sans intermédiaire. Tandis que tant que nous sommes sur la terre, il y a toujours des petits intermédiaires. On ne voit pas Dieu. Donc à ce moment-là, par l'intelligence et la volonté, la charité, elle est présente. C'est pour ça que ce sont des noces. La vision béatifique est noce. Les deux analogies. Hein, pour comprendre ce que c'est que la vision béatifique. La vision béatifique, ce sera des noces éternelles. Il n'y aura pas de lendemain. Parce que le pire, c'est le lendemain des noces. Tandis que là, c'est des noces éternelles, sans lendemain, dans une vision plénière, absolument lumineuse, où l'intelligence verra Dieu tel qu'il est. Donc, c'est Dieu qui, du dedans, va déterminer notre intelligence. Notre intelligence est spéciale, est déterminée par Dieu lui-même. Donc, nous vivrons ce que Dieu vit. La béatitude de Dieu sera notre béatitude. La contemplation de Dieu sera notre contemplation. Nous communierons à la contemplation de Dieu directement, sans aucun intermédiaire. Vous ne pouvez pas réaliser, hein. Vous pouvez comprendre que dans la foi, que c'est cela vers quoi nous tendons. Et c'est pour ça que saint Thomas, quand il parle de la vision béatifique, dit « Ce que le Christ est, ontologiquement, l'intelligence du bienheureux l'est au point de vue de la vie. » Il dit ça dans le Contrat Gentiles. C'est très beau, ça. C'est magnifique. Nous sommes appelés à vivre la vie même de Dieu. Pas une petite vie, vous voyez, petite vie gentille, vertueuse, amicale. Une espèce de plongée en Dieu et d'extase. Notre intelligence sera prise, saisie par Dieu lui-même pour vivre ce que Dieu vit. Donc on peut dire en toute rigueur que tout ce que Jésus est du point de vue de l'être, nous le serons du point de vue de la vie. Vie de l'intelligence, vie du cœur, vie de la volonté. Alors, vous voyez, s'il y a vraiment cette analogie entre les deux, on comprend comment ce qui nous conduit de la manière la plus directe à la vision béatifique, en nous enracinant dans le mystère de l'incarnation, c'est la vie religieuse. Pourquoi ? Parce que dans la foi, donc dans l'espérance et dans la charité, nous nous consacrons totalement à Dieu. Nous mettons dans l'orbite de la vision béatifique, comme on dit aujourd'hui. Et on se met dans l'orbite de la vision béatifique. Il n'y a plus qu'à être fidèle. Et on y va à une vitesse qui est celle de la sagesse de Dieu. Que nous ne pouvons pas régler nous-mêmes. C'est l'Esprit Saint. On est plongé. Et c'est ça la grandeur de la vie religieuse, vous voyez ? Elle doit se comprendre dans la lumière de la vision béatifique. Mais c'est très difficile à prêcher, ça. On peut vous le dire à vous. C'est très difficile, parce que quand on dirait que la vie religieuse s'éclaire par la vision béatifique, les braves chrétiens disent, mais la vision béatifique, c'est pas lumineux du tout. Alors que c'est très lumineux. C'est tellement lumineux que ça nous éblouit. c'est vrai que la vie religieuse n'a pas d'autre mesure que la vision béatifique. Mais c'est là où on comprend que la vie religieuse nous met au-delà de toute attitude morale, formelle. C'est directement la vision béatifique. Parce que notre vie religieuse permet aux vertus théologales de foi, d'espérance et d'amour de se réaliser en plénitude. J'espère que vous voyez bien ça. Ça, c'est pas dit dans saint Thomas, comme je vous le dis, mais c'est dit, si vous êtes attentif. Comme saint Thomas fait l'analogie entre le mystère de l'incarnation et le mystère de la vision béatifique. Une fois que j'ai compris cette analogie, je dis bien cette analogie, au niveau de l'être, au niveau de la vie. Or, la vie de la terre est substantiellement la même que la vie du ciel. Substantiellement. Le conditionnement est tout autre. Substantiellement, nos voeux, voix express, veut que le conditionnement de foi et d'espérance n'arrête pas l'élan de la charité. C'est pour ça qu'on s'allège, on se dégage le plus possible, on allège le plus possible. Toutes les grosses valises, hein, pas de support, on les jette dans le fleuve. Tout ce qui risquerait de nous arrêter, on le jette par-dessus bord. C'est ce qu'on fait, ça. Alors, évidemment, il y a des rapines la nuit. Il y a des rapines, on sait très bien. Oh, cette valise, où est-ce que je l'ai jetée? Oh, je vais y aller. Alors, on va la rattraper, vous savez, d'une façon nocturne. Puis on rentre d'une façon nocturne en la portant sur son dos, en la cachant en dessous de son lit. Pour les visites du père maître dans la cellule. Et on fait que rien ne se voit. Oui. Puis un beau jour, la grâce, hein, de nouveau, on le renverse par la fenêtre. La nuit, pour que personne ne s'en aperçoive. Mais au fond, c'est ça la vie religieuse. Hein. C'est de faire que notre conditionnement humain soit diminué le plus qu'on ne nous donne pas des coups de frein. Et que la charité prenne tout. Et donc, que le mystère de la vision béatifique soit vécu dans l'obscurité de la foi et dans la pauvreté de l'espérance. C'est pour ça que le fruit le plus excellent de la vie religieuse, c'est l'oraison, l'attente de la vision béatifique. Ce qui est plus splendide, vous voyez, c'est que un jour, tous les frères sont en oraison, on passe tous au ciel. Il ne reste plus des cadavres. Parce que l'oraison, c'est l'attente de la vision béatifique. Être brûlé d'amour pour attendre la vision béatifique. L'oraison, c'est les vierges sages. Ils prennent, disons, de l'huile. L'oraison remplit l'âme d'huile. Pour la journée. Tout se comprend comme ça. Toute l'économie de la vie religieuse se comprend dans cette attente de la vision béatifique. Du fait même que le conditionnement de foi et d'espérance et saisi directement pour se mettre dans l'attitude la plus immédiate de la croissance de la charité. Alors, nos voeux prennent leur signification réelle, leur signification profonde. On est fait pour la vision béatifique. Et rien ne peut nous satisfaire en dehors de la vision béatifique. Et on le dit explicitement à qui veut l'entendre. En orbite, sur la vision béatifique. Tout entier tourné vers ça. Ah, c'est pas commun à vivre, c'est sûr, mais c'est très grand. C'est étonnant quand on regarde théologiquement ce que c'est que les feux, c'est ça. Alors ça prend une force étonnante. Ça prend une force étonnante, puisque c'est toute notre vie et toutes les énergies qui sont en nous qui doivent être mobilisées par la charité, par la foi, l'espérance. Voyez comment la vie religieuse, puisque c'est une attente à la vision béatifique, on peut dire que c'est une attente au don de l'Esprit Saint à travers les dons de l'Esprit Saint. Si, au moment de prononcer ses vœux, au moment de prendre l'habit, au moment d'entrer, il y a une mission spéciale de l'Esprit Saint, toute notre vie religieuse doit être sous cette motion. Une attente à la vision béatifique. Bon. J'espère que vous voyez bien ça. Réfléchissez là-dessus. Si vous avez des questions là-dessus, vous les notez. Et vous les mettrez ici. Parce que je voudrais que ce soit d'une clarté pour vous étonnante. Alors, tous les baratins qu'on entend contre la vie religieuse, tout ça, en un instant, ça disparaît. Et ça, c'est la théologie pure. La théologie pure, c'est du saint Thomas dans tout ce qu'il a de plus fort par rapport au mystère de la vie religieuse, d'une vie religieuse monastique contemplative. C'est-à-dire une vie religieuse qui soit du nectar, pas de la petite dinette, pas du verjus. Et une vie religieuse, bien, on peut passer doucement la vie sur la terre. La vie religieuse n'est pas faite pour qu'on passe doucement la vie terrestre. Elle est entièrement tournée vers la vision béatifique. Et tout prend son sens par rapport à la vision béatifique. Bon, alors, je ne dis pas plus, c'est facile à comprendre. Et ça fait saisir comment notre vie religieuse nous met dans cet état-là. Le vécu de la vie religieuse, c'est le mystère de la compassion. C'est ce que nous allons voir maintenant. Et c'est vrai que Marie, à la croix, nous montre le vécu de la vie religieuse, et c'est à la croix où elle vit le mystère de la rédemption, dans l'unité, et où elle est, je dirais, debout, comme liée, d'une manière toute particulière, au mystère de l'incarnation. Jésus peut vivre la croix parce qu'il est le Verbe incarné. Et Marie peut rester debout au pied de la croix parce qu'elle est liée à ce mystère de l'incarnation. Comme mère et surtout, comme dirait saint Augustin, comme vierge, elle est consacrée au Père. Parce qu'elle est consacrée au Verbe, elle peut être debout. Oui. Il y a la présence et elle est debout. Elle est debout, elle est présente. Donc ça fait bien comprendre les deux attitudes profondes. Alors, j'ai déjà prêché plus d'une fois le mystère de la compassion. Mais j'ai envie avec vous, voyez, de le voir peut-être d'une manière plus théologique. Je peux prêcher le mystère de la compassion en voyant tout le mystère du du cantique des cantiques. Les cantiques des cantiques nous montrent le mystère de la compassion. Le cantique des cantiques est, à l'Ancien Testament, ce que le mystère de la compassion est au Nouveau Testament. Donc, les deux se tiennent. Et Marie, au pied de la croix, nous donne la dernière lumière pour le cantique des cantiques. C'est à travers Marie qu'on comprend le cantique des cantiques. Vous voyez, c'est les deux mystères d'alliance de l'époux et de l'épouse. Selon l'ancienne alliance, le cantique des cantiques. Selon la nouvelle alliance, Marie au pied de la croix. Alors on peut regarder tout le mystère de la compassion en s'aidant du mystère du cantique des cantiques. On peut aussi essayer de comprendre ce mystère de la compassion de la manière la plus rigoureuse au point de vue théologique.